Il est 18h sur Radio Campus Paris. On écoute tout de suite une émission réalisée dans le cadre de nos ateliers radio Tour des Facs en partenariat avec le service culturel de l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
Donnez-moi un S, donnez-moi un O, donnez-moi un R, donnez-moi un B, donnez-moi un O, donnez-moi un double N et donnez-moi un E, Sorbonne Nouvelle Génération.
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 C'est bien.
Sorbonne Nouvelle Génération.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Sorbonne Nouvelle Génération, l'émission qui va vous faire du bien aux oreilles et au cerveau. Avec à mes côtés pour animer cette émission, Émilie. Bonsoir Émilie.
Salut Jordi.
Et en compagnie exclusivement d'étudiants de Paris 3 qui s'improvisent animateurs, journalistes ou encore chroniqueurs pour cette soirée spéciale. Mais ne vous inquiétez pas, l'équipe qui m'accompagne a du talent et vous a préparé pour l'occasion un programme à la hauteur des plus grands. Émilie, de quoi va-t-on parler ce soir ?
Et oui, au sommaire de cette édition unique et ludique donc, un zoom sur les étudiants étrangers à la fac présenté par notre duo de choc, Clara et Félie. Salut Félie, salut les filles.
Salut.
Bonjour.
Une plongée dans l'univers des séries télé sous la houlette de notre journaliste mordu de petit écran, Anaïs. Hello Anaïs.
Hey.
Puis un peu de sérieux ou pas, avec Anya et Sherifa qui se sont intéressés à la question de la professionnalisation à Paris 3. Bonjour les filles.
Ouais, bonjour.
Nous reprendrons ensuite la voie du divertissement avec Mélanie et Antoine qui se sont frottés à la créativité des étudiants du service d'action culturelle. Salut à vous deux.
Salut, salut. Salut.
Enfin, pour conclure, je vous livrerai un petit florilège des spectacles à ne pas manquer en région parisienne dans les mois qui viennent. Sans plus attendre, je donne la parole à Jordi et à son humour décalé.
Merci Émilie. Ici, nous, à Paris 3, on aime la diversité. L'échange, le partage des cultures, les langues qui s'entremêlent, enfin sans mauvais jeu de mots, on aime les gens quoi. Du coup, on est toujours prêt à les accueillir sur nos bancs et ils sont nombreux chaque année à venir du monde entier découvrir notre belle Sorbonne Nouvelle. Ils, ce sont ces étudiants étrangers, espagnols, japonais, portugais et j'en passe, qui ont décidé de quitter leur pays pour se mêler au stress et à la pollution de notre belle capitale parisienne. Mais comment arrivent-ils chez nous ? Comment vivent-ils ce changement ? Quelles sont leurs difficultés ? Et surtout, est-ce que la légende qui veut que les Parisiens fassent tout le temps la gueule est réelle ? Pour en discuter avec nous, nous recevons ce soir Manuela, venue étudier à Paris 3 depuis la rentrée. Bonsoir Manuela.
Bonsoir.
L'occasion ce soir de partager et d'échanger autour de ce beau pays qu'est l'Espagne et de vous faire voyager. Pour parler monde et étudiants étrangers, je laisse la parole à mes chers acolytes, Clara et Félicité.
Bonjour à tous, c'est le moment de partir un peu au soleil, direction l'Espagne. Aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée, Manuela, une Espagnole qui va partager avec nous son expérience en France, à l'université et son regard sur les Français. Bonjour Manuela.
Bonjour.
Merci d'être venue sur notre émission Sorbonne Nouvelle Génération. Alors avant toute chose, pour que nos auditeurs apprennent à te connaître un petit peu, nous allons dire quelques mots sur toi. Donc Manuela, tu as 23 ans et tu es une étudiante espagnole qui a choisi de quitter Madrid pour étudier ici à Paris 3 un Master 1 Information et Communication. Et contrairement à la majorité des étudiants espagnols présents dans notre chère université, tu ne t'es pas inscrite dans le cadre d'un échange Erasmus, mais tu t'es inscrite toi-même dans le but de poursuivre ta scolarité en France.
Oui.
Donc j'espère bien avoir résumé ton cas. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi as-tu choisi de venir étudier en France et qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire à la Sorbonne Nouvelle ?
Ok, ben moi j'avais terminé ma licence de journalisme en Espagne. Donc, j'avais pas trop quoi faire et j'ai fait ma scolarité au lycée français de Madrid. Donc, j'avais envie un peu de reprendre mon français et mon éducation française. Donc, je me suis dit pourquoi pas partir à Paris. Et puis, Sorbonne Nouvelle, déjà, la Sorbonne, c'est assez réputée en Espagne et au niveau international. Donc, comme je voulais faire quelque chose en communication et qu'à la Sorbonne, il n'y a pas, enfin, à part le celle-là, je me suis dit, on va à la Sorbonne Nouvelle. Ça y est, j'ai tenté, j'étais prise, et voilà.
Super, ma félicitations.
Ouais, merci.
Et donc, toi qui as été étudiante à la fois à l'Université Complutense de Madrid et maintenant à Paris 3, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les différences dans les universités publiques, donc françaises et espagnoles ?
Question de fausseur. Alors, déjà, c'est très différent le domaine parce que moi, je faisais que du journalisme. Et donc, en Espagne, je veux dire. Et le journalisme, c'est des études qui sont très personnelles. Les profs doivent être forcément plus proches. C'est plutôt basé sur la discussion que sur la partie plus théorique. Que je trouve que c'est ce qui se passe à Paris 3. Il y a beaucoup de théories, donc ça t'éloigne un peu du prof. Surtout, nous, c'était tout le temps, on discutait sur l'actualité, on faisait, des programmes radio. C'était plutôt, plus en mouvement.
Et tu préfères justement faire plus de pratique ou plus de théorie ?
Après, tout a ses pour et ses contre. Je pense que ce qui est bien, c'est le point entre les deux. Mais... non, mais je suis très contente. Franchement, Paris, je suis très contente. J'étais très contente à Madrid et là, je suis très contente à Paris 3. Donc, c'est bien. Je ne changerai pas.
Et concernant ton arrivée à Paris, justement, est-ce que c'était la première fois que tu venais à Paris et quelle a été ta première impression quand tu es arrivée ici ?
Ok, non, ce n'était pas la première fois que je venais. J'étais venue quand j'étais petite à Disneyland Paris. Bien sûr. Cliché, oui. Et mon impression, c'était ça mon souvenir de Paris, Disney, la Tour Eiffel, je ne sais pas quoi. Et après, je suis venue et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça.
C'est vrai.
Enfin, si, c'est ça, mais il y a... Il y a beaucoup plus de Paris que ce que moi j'avais à l'esprit avant.
Et justement, quand tu as déménagé, quelle a été la première chose qui t'est passée par la tête ? Qu'est-ce que tu voulais faire absolument ? Retourner à Disneyland, aller voir la Tour Eiffel ?
Bon, déjà, je suis arrivée chez moi et j'ai dit waouh, il est hyper petit mon appart. Qu'est-ce que je vais faire ça ici une année ? Mais bon. Donc après, je connaissais même pas le quartier parce que je l'ai pris par internet. Donc du coup, c'était la première fois que je voyais mon appart et tout. Et j'ai dit bon, je vais faire un petit tour. J'habite Bastille, donc je dis ok, je vais faire un petit tour déjà. J'ai adoré. Donc j'ai dit ok, ça vaut le coup de vivre dans 20 mètres carrés à deux. Pendant
à deux.
Voilà, si c'était moi seule, ce serait le luxe, mais non. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que tu m'as... Je me souviens un peu de la question.
C'est ça, qu'est-ce que tu voulais faire absolument ? Une envie particulière en arrivant à Paris ?
Moi, je suis un peu geek des musées, déjà. J'adore l'art. Donc, quand j'étudiais ça à Madrid, j'avais une matière justement qui était, ça s'appelait Mouvement artistique contemporain. Et tous les grands, enfin, les peintures que j'aimais le plus, elles étaient tous à Paris. Mmh. Donc, j'ai dit, je vais voir tout ça. j'ai fait pas mal de musées en arrivant. Et, je sais pas, du shopping, un peu tout. Est-ce que c'est ça, Paris, c'est tellement énorme. Il y a tout le temps des choses à faire. Même aujourd'hui, je n'ai pas fini encore.
Et justement, toi qui aimes les musées, concernant la culture française, y a-t-il des choses qui t'ont frappé particulièrement en arrivant en France ?
Au niveau volume de culture, peut-être. Moi, je viens de Madrid. Madrid, c'est bien plus petit que Paris. Et quand même, il y a pas mal de cultures, mais c'est plus, alternative. Là, il y a beaucoup de cultures historiques. Mm-hmm. C'est plus... Donc, et après, je dirais que aussi par rapport à la culture, il y a cette différence entre un peu la culture officielle, les grands musées, l'histoire, et ensuite aussi la culture, par exemple, au niveau musical, c'est le kiff, il y a plein de... t'as toujours des concerts, t'as tous les artistes qui viennent. Nous, en Espagne, souvent, ils restent en Barcelone. Ils descendent pas jusqu'à Madrid. Donc, on doit tout le temps faire des... Et ici, à Paris, t'as tout. Donc, c'est magnifique.
Super. Et avant de venir en France, est-ce que tu avais des préjugés, justement, sur la France ? Et si oui, est-ce qu'ils se sont avérés ?
J'en avais plein. Parce qu'en plus, comme j'ai fait ma scolarité... au lycée français, j'étais tout le temps entourée par des Français, par des profs français. Donc ça forme un peu une image comme quoi les Français étaient sérieux, hyper strict, parce que nous, il y a tellement de différences entre les élèves qui vont au lycée à Madrid et les élèves qui vont dans une école espagnole que, bah voilà, j'avais un peu cette impression-là. Et ça s'est avéré. Non.
Ah, on n'est pas sérieux alors.
On n'est pas sérieux, voilà. Merci.
Non, pas du tout. Allez, vous êtes quand même plus sérieux que nous, les Espagnols, ça c'est clair, parce que nous.
C'est la fête tout le temps.
C'est la fête. C'est pas la fête tout le temps, mais souvent, assez souvent. Je sais pas.
Non. D'accord, bah justement, non, en parlant de préjugés, on va t'énoncer un certain nombre de préjugés et de clichés que les étrangers ont sur les Français ou bien sur les Parisiens.
Ok.
Donc à toi de nous dire, avec ton point de vue espagnol, s'ils sont avérés ou non, maintenant que tu habites à Paris.
Ok.
Donc, les Français sont mal polis.
Les Français sont mal polis. Ben, justement, ça, je crois que le cliché, c'est tout le contraire, par rapport à nous. Nous, en Espagne, on nous dit les Français et on pense... La politesse, bonjour monsieur, merci, au revoir, je sais pas quoi, 20 000 mots. Moi, quand je suis arrivée, c'est vrai, hein, moi, je suis arrivée à Paris et du coup, un jour, je vais acheter une baguette de pain à la boulangerie et la dame me dit bon après-midi, bonne journée, bonne soirée et bonne semaine. Genre, je sais pas, bonne vie, savez, ça, il restait plus que ça, quoi. Genre, moi, j'étais là, mais. Nous en Espagne, c'est bon, allez, merci. Hasta luego. Allez, casse-toi. Ici, c'est, je sais pas, il y a mille formalités, quoi. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Pas du tout mal poli.
Les Français sont très polis.
Après, vous pétez des plans, comme ça. Mais non. Assez poli, quoi.
Alors ensuite, les Français ne se lavent pas et ne se rasent pas.
Ne se rasent pas et ne se lavent pas. Il y a de tout comme partout. Non, pas spécialement.
Donc c'est un cliché.
C'est un cliché, ouais.
Ensuite... Non, parce que nous, autour de la table, on ne se lave pas et on ne se rase pas. Moi, je me rase pas, on fait trois semaines.
Oui, mais bon, moi non plus, je suis espagnole, donc ça va.
Alors, Manuela, les Français sont nuls en anglais, qu'en penses-tu?
Bah oui, yeah. Vous êtes nuls en anglais, mais nous aussi. Nous, on est encore pire, je crois. Enfin, je sais pas, c'est pas qu'on est nul, on a nos accents, voilà. Ah. Mais c'est bien, non, d'avoir ces accents.
Ensuite, concernant l'alimentation des Français, il paraît qu'ils ont une alimentation rudimentaire, baguette, fromage et vin. Qu'en penses-tu ?
Moi, je dirais plutôt, les plats rapides, comme on dit en espagnol, on dit... Non, mais c'est pas fast-food, c'est genre, tu achètes, je sais pas, cassoulet et tu le mets à chauffer, tu vois ? C'est ça, parce que je sais pas, la cuisine française, à niveau international, c'est waouh, la cuisine française. Après, t'arrives en France, tu vois que tout le monde mange des trucs chauffés, préparés, voilà. Et... Après, oui, la baguette, fondamentale, mais...
Ensuite, penses-tu que les Français sont romantiques spécialement ?
Pas du tout. Mais pas du tout. Bon, c'est vrai que je dirais pas, peut-être pas romantique, mais comment on dit, cursi. Toi, Félix, qui parle espagnol.
Bah alors,
cursi, genre, comment je dirais, c'est entre l'élégance et un peu chou.
Il est un peu chaud. Oui, un peu chaud.
Non, chou, 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 chou,
chou, chou.
Non, pas chaud, chou, genre... Est-ce que je sais pas décrire.
Ils te font les yeux doux, quoi.
Oui, voilà.
Ils ont charbeur.
Oui, voilà, c'est ça.
Et voilà, fini les préjugés, plus de secrets entre espagnol et français. Un très grand merci, Manuela, pour ta participation à cette émission. Et on te souhaite plein de bonnes choses dans notre beau pays. Et tu restes avec nous pour participer tout à l'heure à un petit quiz sur le monde avec toute l'équipe.
Ok,
merci.
Merci,
Manuela.
I see the sun. Hey, I see the sun. Hey, I see the sun.
Hey, Lord, time is going now.
The sun of the judgment.
Hey,
the sun of the judgment.
Hey.
Tell me who's gonna cross in the valley?
Hey.
Who's crossing the valley?
Hey.
Who's crossing the valley?
Hey, Lord, time.
Tell me who's gonna cross in the valley?
Hey.
Who's crossing the valley?
Hey.
Who's crossing the valley?
Hey, Lord, time.
Tell me who's gonna cross in the valley?
Hey.
Who's crossing the valley?
Hey.
Who's crossing the valley?
Hey, Lord, time.
Tell me who's gonna cross in the valley?
Hey.
Who's crossing the valley?
Hey.
toujours sur Radio Campus Paris et vous venez d'écouter Sign of Judgment de Nunes. C'est le moment décalé de notre émission maintenant en compagnie de Clara qui vous a préparé pour l'occasion une chronique insolite.
Et oui, alors pour se détendre un peu après cette charmante découverte, c'est le moment de vous raconter quelques histoires un peu folles et j'espère que vous êtes prêts car ce n'est pas joli joli et vous allez halluciner. Alors je vais vous raconter l'histoire d'une bonne femme âgée de 63 ans et vous allez me dire mais qu'a-t-elle fait pour être connue à son âge ? Eh bien tenez-vous bien. Le quotidien La Razón nous révèle une histoire bien inattendue. Lors d'une après-midi ensoleillée, notre chère dame en a profité pour se préparer un petit bouillon de calamar. Sauf que figurez-vous, l'un d'eux n'était pas totalement cuit quand elle les a dégustés. Alors que s'est-il passé ? Eh oui, ce cher petit calamar tout excité par la chaleur en a tout simplement profité pour se laisser aller et a décidé d'éparpiller derrière lui des petits spermatozoïdes. Et non, ce n'est pas une blague, croyez-moi, et le pire n'est pas encore arrivé. Notre chère dame, prise de douleur dans la bouche et de la gorge, se précipite chez le médecin. Mais elle n'aurait jamais imaginé ce qui l'attendait. Surprise ! Une douzaine de petits bébés calamars accrochés dans les gencives et dans la gorge. Malheureusement, nous n'avons pas pu savoir si les bébés calamars étaient des filles ou des garçons avant leur élimination.
Mais du coup, elle s'en est bien sortie quand même, on a pu...
Ah oui, sa bouche est enfin propre, elle s'en est sortie. Bon, mais vous allez me dire, c'est sale, alors raconte-nous quelque chose de plus joyeux. Eh bien, j'aimerais, mais cette histoire, je ne sais pas si on doit en rire ou en profiter. Alors Manuela, tu nous disais que tu aimais bien Disney, eh bien prépare-toi. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Disney ? Eh bien, c'est sûrement faire la queue comme tout le monde.
Et Mickey.
Et Mickey, oui, bon, Mickey, Emily, j'avoue, et les petits princes de Disney. Et oui, ce moment où l'on passe de très longues minutes, voire des heures, pour 2 minutes d'extase. Eh bien, un homme a trouvé la solution, louer le service de personnes handicapées pour bénéficier d'un pass spécial. Et oui, une agence de tourisme propose alors à des personnes de s'offrir l'accompagnement d'une personne en situation de handicap pour passer les entrées derrière, enfin, les entrées secondaires, on va dire, et éviter les files d'attente. Mais malheureusement, l'agence a dû mettre fin à son service parce que ça a été révélé dans la presse, donc... Vous n'allez pas me dire que vous n'auriez pas été tenté par cette petite pratique.
Voilà, idée de génie.
Voilà, il voilà, faut bien prendre des petites initiatives de temps en temps.
Mais je suis sûre que tu ne nous as pas tout dit, Clara. Sors un petit peu tout ton chapeau. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous raconter ?
Alors oui, j'avoue, j'ai encore des petites sympathiques petites histoires. Oui, voilà, c'est une nouvelle
pas trop
expression.
Sale,
non, ça va. Enfin, quoique. L'Espagne, et oui, Manuela, ton pays. L'endroit où le soleil règne, le royaume des mini-jupes et des shorts. Mais vous n'aurez pas deviné ce qui se passe là-bas. Eh bien, c'est le seul pays où il y a la première école de prostitution. Et oui, on donne des petits cours. C'est très sympa. Donc c'est une façon de bannir le chômage, vous me direz.
C'est une façon comme une autre.
Voilà, je veux dire, il faut bien faire comme on peut. Et pour se quitter en toute finesse, je suis heureuse de vous apprendre qu'une certaine espèce de tortue respire uniquement par l'anus. Et oui, chacun utilise ses petits trous comme il l'entend.
De mieux en mieux.
Chacun son... chacun sa vie, quoi.
Merci Clara. Mais alors maintenant, on va peut-être un petit peu s'amuser. On va vous proposer, à vous mes chers chroniqueurs et invités, donc, de jouer tous ensemble à un petit quiz autour du monde. On vous pose une question, le premier qui répond gagne la reconnaissance éternelle de ses camarades. Vous êtes prêts ?
Ouais,
ouais. C'est parti.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'un tolmuimeja en Estonie ? Besoin d'un petit indice ?
Est-ce que c'est un objet ?
Alors, ouais, il est utile pour le ménage.
Un aspirateur.
Oui !
Il est totalement juste, il a eu les réponses. Il n'y en a pas du tout.
Bon, deuxième tour. Dans quel pays peut-on trouver des pastèques carrées ?
Ah oui.
Et pas d'indice, il faut faire fonctionner vos méninges.
Cette fois, Antoine, tu ne regarderas pas la réponse.
L'Australie ?
Non.
Comme ça, je connais la réponse.
Le Pérou ?
Non.
Le Japon ?
Oui, Antoine !
Non, alors là, tu triches, c'est pas possible.
Et regarde toutes les réponses.
J'en ai une réponse de chaque côté.
Les filles, il a trouvé un petit peu des réponses.
Une petite explication, c'est que certains agriculteurs font pousser leurs pastèques dans des boîtes carrées pour qu'elles en prennent la forme, afin que les consommateurs puissent les rentrer plus facilement dans leur réfrigérateur. Ingénieux, n'est-ce pas ?
Très utile surtout.
Et ensuite, quel est le seul pays européen qui n'a pas de train et qui ne peut pas construire un réseau ferré ?
Bon allez, réfléchissez un petit peu.
La Slovénie ?
Non.
La Turquie ?
Ah mais elle est pas dans...
C'est pas très loin de
chez nous. C'est nordique. Un pays nordique.
La Hollande ?
L'Islande.
Le Danemark.
Ah oui,
ouais. Un point pour Émilie.
Yes.
Car l'activité sismique de l'île ne permet pas d'offrir aux passagers des conditions de sécurité optimales. Donc pas de train.
Alors attention, dans quel pays est-il illégal de tirer la chasse après 22h du matin quand vous vivez dans un appartement ? À 22h du soir. Oui, bah écoutez, c'est ça vrai. Arrive. Voilà. J'ai pas pu tirer ma chasse, j'étais fatiguée.
La Russie ? La Russie ?
Non. Oh. Non, non. C'est un petit endroit où on emballe du chocolat.
La Suisse.
La Suisse.
Tout à fait. Et oui, et ben voilà. Donc si vous avez une envie pressante à 22h, c'est pas possible. Et là, Antoine, on a pensé à toi, vu qu'il y a beaucoup de femmes autour de cette table. D'après une étude publiée par deux chercheurs français, qui triche le plus, les filles ou les garçons? Eh ben oui, Jordi avait raison, c'est ça. Voilà, donc
nous voulions le personnage.
La preuve, voilà. La preuve en est.
Eh ben merci les filles pour ce petit quiz et on fait une petite pause musicale tout de suite.
Je vais te le dire franchement, j'ai mis les pieds dans un monde différent. Un monde où l'on parle de mode et de jolis produits. On parle de boîtes de prod et des États-Unis. Préoccupation numéro 1, apparence. Faire attention au quotidien, à ce que les gens font et ce qu'ils pensent. Avoir l'air toujours bien et l'attitude tendance. Malheureusement, claquer du bif en fond de teint ne cache pas l'arrogance. Petit monde qui se suffit à lui-même, se jette lui-même de jolies chrysanthèmes. Et sans problème, ne comprend pas ce qu'il y a de mal à ce système. Un petit monde qui se suffit à lui-même, se jette lui-même de jolies chrysanthèmes. Et sans problème, ne comprend pas ce qu'il y a de mal à ce système. Serait déjà immense. Et puis tant de méfiance envers ceux qui dans l'apparence ne vont pas dans leur sens. J'aimerais leur dire qu'ils aillent ailleurs, voir les pires images devenir les leurs. J'aimerais qu'ils cessent de prendre de haut ceux qui n'ont pas trop d'argent et d'égo. J'aimerais crier qu'ils se réveillent, la connerie coule ici comme le miel. Si on ne se soucie pas de l'âme, si on privilégie l'individu. Un petit monde qui se suffit à lui-même, jette lui-même de jolies chrysanthèmes. Et sans problème ne comprend pas ce qu'il y a de mal à ce système. Un petit monde qui se suffit à lui-même, jette lui-même de jolies.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous venez d'écouter Join That Tease, un petit monde, un choix de Anaïs.
Oui, alors Join That Tease, en fait, c'est un groupe de reggae composé de 6 mecs. J'ai pu les découvrir à un sound system à Antony en 2013. Et la même année, ils ont gagné le lauréat des musiciens du métro et ont eu la chance de pouvoir passer au Solidays. Leurs concerts sont bourrés d'énergie. C'est ultra festif, je dirais même explosif. Mais il n'empêche que c'est un groupe engagé, conscient des inégalités de notre système. Leur premier album, Première Sommation, est sorti en février 2014 et ils sont encore en tournée dans toute la France. Les dates sont disponibles sur leur site joindatis.com.
Merci. Alors ne me dites pas qu'il ne vous est jamais arrivé de passer une nuit blanche à regarder Grey's Anatomy, les yeux tout mouillés quand le beau docteur Mamour qui décide enfin de demander Meredith en mariage. Bon, non, ça c'est moi. Mais je suis sûre qu'il nous est tous arrivé un jour de rester des heures devant notre ordinateur à enchaîner les épisodes de nos séries TV sans pouvoir nous en décoller. Et ça, c'est également le cas d'Anaïs.
alors, vous avez pu reconnaître des génériques ?
Oui, Malcolm.
Game of Thrones.
Ouais.
Breaking Bad.
Carrément.
Oui, Breaking Bad.
Les Simpsons. Les Simpsons.
Friends, non, peut-être ?
Non, pas Friends. Mince. Bon, bah, en parlant de séries, justement, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience et mon amour des séries. Mais en fait, cette idée ne m'est pas venue par hasard. En fait, c'était il y a quelques mois. C'était un soir de semaine. Je rentrais après la fac, vers 20h, avec juste une envie, me vider la tête et me détendre. Donc, effondrée dans mon lit, allongée bien au chaud, vous êtes bien d'accord avec moi que quoi de mieux qu'une bonne petite série sur l'ordi. Mais bon, le problème commence maintenant. C'est que finalement, j'ai pas bougé de l'écran de ma série. Au passage, c'était la saison 1 de American Horror Story. Et je l'ai regardée pendant 6 heures d'affilée. Bon, soit environ 6 épisodes, mais des épisodes de 52 minutes. Du coup, forcément, tout ce qui s'ensuit le lendemain matin, panne de réveil, grosse migraine, j'ai manqué mes cours de toute la matinée, alors qu'au fond, j'étais parfaitement consciente qu'à chaque fois que j'appuyais sur le lien du prochain épisode, c'était des heures de sommeil en moins. Mais je pouvais pas m'en empêcher, fallait que je regarde la suite, c'était plus fort que moi. Du coup, j'ai priorisé une série avant mon sommeil et une matinée d'études à la fac. Et je me suis demandé quels sont les motifs qui m'ont poussée à cela. La situation m'a même emmenée à calculer mon temps passé devant des séries grâce à une calculatrice de séries sur un site internet Timee, T-I-I-I.me. Le résultat cumulé m'a donné 35 jours, 21 heures et 23 minutes. 35 jours ! Un mois d'affilée sans aucune interruption de visionnage de séries dans toute ma vie. Du coup, la réponse m'a choquée et affligée. Mais pourquoi m'a-t-elle choquée ? Pourquoi cette réaction négative ? Était-ce une perte de temps ? Est-ce une perte de temps de regarder une série ? Pourquoi est-ce que je ressens une perception négative quant à l'activité de regarder une série face à d'autres occupations culturelles comme lire un livre ? Car au fond, j'adore les séries. Et du coup, ces questions m'ont fait réaliser qu'au fond, je ne les connaissais pas vraiment. Alors j'ai commencé ma petite enquête et j'ai d'abord demandé à Flore, présentatrice de l'émission Le Prochain Épisode sur Radio Campus, pour m'expliquer l'essor des séries américaines.
Il faut savoir que les séries télévisées, peut-être encore plus que les autres secteurs culturels, sont une industrie qui ne fonctionne qu'avec de l'argent. Surtout si on parle du contexte américain, où les chaînes publiques ne sont même pas financées par l'État et ne fonctionnent qu'avec la publicité. Donc les ingrédients d'une bonne série, c'est avant tout des ingrédients qui font vendre et qui font du chiffre et qui permettent à la série de marcher une, deux, trois, plusieurs saisons. Et ce qui fait qu'une saison est renouvelée, c'est l'audience. Donc tout est gouverné malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, par le chiffre. Et aussi, quand on parle des ingrédients, il faut toujours penser, est-ce que la série est faite pour une chaîne network ou une chaîne du câble. Alors là, on parle des États-Unis. Aux États-Unis, il y a deux types de chaînes. Il y a les chaînes dites network et les chaînes de câble. Les chaînes network, c'est les chaînes historiques qui correspondent à notre système public, donc finalement France Télévisions et c'est tout, et Arte. La différence là-bas, c'est que c'est public, mais c'est pas financé par l'État. C'est financé par l'État, mais très peu, enfin... C'est compliqué à expliquer, mais en gros, c'est historique et c'est les chaînes originales de la télévision. Après, dans les années 80, est apparu ce qu'on appelle le câble, donc des offres payantes avec des bouquets de chaînes, qui donc étaient financées par le prix de l'abonnement, comme aujourd'hui ce qu'on a nous, mais qui est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. Et c'est avec ces chaînes du câble-là qu'est arrivée la possibilité de contourner les règles de l'équivalent américain du CSA. Parce que les Américains sont très puritains, et il y a des tas de mots qu'on ne peut pas dire à la télévision, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas montrer à l'écran, des tas de sujets qu'on ne peut pas aborder avec le câble, tout ça disparaît, on peut dire ce qu'on veut, on peut montrer ce qu'on veut, on peut parler de ce qu'on veut. Et donc c'est là qu'on sent une différence très grande entre une série qui sera diffusée sur un network comme Urgence, qui va aborder plein de problématiques et montrer plein de choses, mais quand même rester très sage. Dans Friends, il est question de sexe absolument tout le temps, mais il n'en parle jamais. Vous n'entendrez jamais le mot coq dans Friends, jamais. C'est toujours subjectif. Si vous prenez Sex and the City, qui est diffusé sur HBO et donc une chaîne du câble, vous entendrez le mot coq absolument toutes les 5 secondes. Donc c'est là que le câble a tout changé et que les ingrédients d'une bonne série pour un network et les ingrédients d'une bonne série pour le câble, c'est pas la même chose. Parce que le câble a presque été comme une avant-garde artistique. Dès que c'est apparu, on a pu faire tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant.
Donc, bien décidé à approfondir le sujet, Je suis même allée chercher des bouquins sur les séries à la bibliothèque de la fac de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Mais j'avais beau chercher au rayon cinéma et au rayon art, bah y avait rien. Et oui, car les livres sur les séries se trouvent au rayon communication. Le rayon communication, à côté des livres sur la télé. Mais pour moi, les séries, c'est plus du tout assimilé à la télévision. Du coup, j'ai demandé l'avis de Joachim, étudiant cinéma, de se présenter en tant que regardeur de séries et de m'en dire plus sur les séries et leur rapport à la télé.
Bonjour, je m'appelle Joachim, j'ai 22 ans. Je suis en licence 3 de cinéma à Nanterre, Paris-Ouest, La Défense, l'université 10. Voilà ce que je suis. Alors, je regarde des séries toutes les semaines, la plupart du temps sur Internet ou des fois en les empruntant dans des bibliothèques parisiennes. Bah, en général, je regarde des séries de 52 minutes, donc ça, je dirais à peu près 3 heures par semaine minimum, parfois beaucoup plus, genre 22 heures. Bah, je pense qu'à l'époque d'Internet, à peu près tout le monde l'a, même seulement sur son portable, je pense que la télévision n'est pas du tout le médium adapté en fait, pour la distribution des séries, même des films en général. Alors du coup, on pourrait plus parler vraiment de séries télévisées. Bah, déjà, c'est un adjectif qui a raccroché derrière série, mais on dit bien série, une ellipse, on dit plus série télévisée, on dit série. Déjà, c'est un fait de langage, tout le monde dit série. Parce qu'en fait, on ne regarde pas plus nécessairement des séries à la télé. On utilise toujours un écran, une télé, plus ou moins, ce qu'on va dire. Mais c'est un écran, on regarde souvent plus sur ordinateur, sur téléphone mobile, sur tablette, ce genre de choses. Parce que maintenant, les prix ont baissé, parce que on a la technologie pour le faire de manière massive.
Il y a un schéma de série que j'aime particulièrement, c'est les sitcoms. Mes préférés sont How I Met Your Mother, Scrubs, mais je pense aussi à Friends, Ma Famille d'abord, Malcolm, Big Bang Theory, Mon Oncle Charlie. Mais on peut s'apercevoir, dès le premier visionnage d'une sitcom, que c'est un genre quand même très fermé au niveau de sa construction narrative. On aime ou on n'aime pas. Certains se plaignent des rires pas très naturels qu'on entend derrière à chaque fois que machin fait une blague. Après tout, chacun ses goûts.
Alors les sitcoms, c'est peut-être le genre qui me répulse le plus. Ça veut pas dire que j'en regarde pas mal. Mais c'est vraiment le format typique hollywoodien, c'est le format qu'ils ont trouvé pour leur série de base, de comédie généralement. Mais du coup, c'est un format qui est particulier parce qu'en 20 minutes, on peut peut-être pas toucher beaucoup de sujets justement. Et la sitcom, c'est un genre qui est, mis à part que ce soit vraiment un fait divertissant, c'est quelque chose qui est un peu, c'est comme une machine à laver, ça tourne toujours. C'est tout le temps la même chose. On prend souvent un groupe de personnages et on les fait évoluer dans des lieux tout simples. Les sitcoms, sinon, c'est vraiment toujours un genre qui ne se renouvelle pas, en fait. C'est limite éternel. Et du coup, ça fait en sorte que quand on a des séries plus longues, bah, on a plus à loisir de développer des histoires, mais aussi on peut avoir de plus grands réseaux de personnages, ce qui rend généralement l'intrigue plus intéressante, simplement parce qu'on n'est pas obligé de choisir un personnage parmi 5, par exemple. Mais du coup, on peut avoir beaucoup de personnages dans un format long et réussir à maintenir un vrai scénario, tandis que la sitcom se base justement, à cause des limites de temps, sur des scénarios très simples à comprendre. Et en plus, c'est des formats qui sont faits pour... C'est vraiment le format parfait pour les séries télé, parce que 20 minutes, tout le monde peut se permettre de regarder 20 minutes une série. Et en plus, on peut japper beaucoup les épisodes. Les sitcoms sont en plus des épisodes qui ne changent pas. On appelle ça une série bouclée en scénario. C'est un épisode commence, une intrigue se passe, et à la fin de l'épisode, en général, on revient à la même situation du début. Simplement, on a pu se moquer des personnages, sentir des émotions avec eux, ce genre de choses. Mais du coup, il n'y a vraiment pas de progression dramatique.
Épisode de 20 minutes, 45 minutes, 52 minutes, sitcom, drama, policier. Au fond, chacun peut trouver la série qui lui correspond. Donc non, regarder une série, ce n'est pas une perte de temps. Non, regarder une série pendant 6 heures d'affilée, c'est pas une perte de temps non plus. Mais c'est comment vous gérez la situation qui fait que vous pouvez perdre du temps sur d'autres activités que vous aviez prévues. Au même titre que les livres, les films, les séries sont culture. Et la culture est indispensable pour élargir son champ d'idées. Alors oui, toi qui m'écoutes, continue à regarder des séries et ne culpabilise pas. Car tu n'es pas seul et que les centres pour accro aux séries n'existent pas encore.
Moi, je crois que désormais, on passera plus une seule de nos soirées TV sans penser à toi, Anaïs. Hein.
C'est clair.
Merci.
De rien.
Et qu'est-ce qu'on a prévu donc maintenant, Émilie ?
Oui, Jordi, alors nous allons vous prouver qu'un sujet sérieux n'est pas nécessairement synonyme d'ennuyeux.
Ah, chouette.
Grâce à notre jolie polonaise et régisseuse Ania, qui s'est intéressée à la question de la professionnalisation étudiante et plus précisément au système d'alternance.
Tu es un jeune très actif qui veut se lancer le plus vite possible dans le monde du travail, mais tu sais que ton diplôme ne suffira pas pour décrocher le travail de tes rêves ? Tu réfléchis probablement à une formation qui concilie parfaitement un temps de formation et un stage à l'entreprise, qui te donne la possibilité de voir comment c'est être déjà dans une boîte en costume et cravate, mais en même temps te permettre de rester un peu étudiant avec tous les avantages de ce statut. Bah, l'alternance semble être une solution taillée pour toi. Ce rythme de formation, très promu par les gouvernements et présent dans les offres de toujours plus d'universités et écoles, est très séduisant. Et selon les statistiques, près de 80% des jeunes ayant suivi une formation en alternance ont obtenu au final un emploi pérenne. Yeah! J'ai demandé l'avis à 3 étudiants en Master 2 professionnel de la Sorbonne Nouvelle qui se déroulent en alternance. Tout d'abord, qu'est-ce qui les a amenés à choisir cette option ?
Alors, j'ai choisi un master en alternance parce que ça me paraissait être une formule plus équilibrée. Moi, j'ai déjà fait un master avec un temps plein de cours et ensuite un stage à temps plein. Et puis là, je pensais que c'était une bonne alternative pour à la fois avoir une formation pratique sur le terrain, sur le long terme surtout, c'est parce que je pensais que c'était à l'année. Et à côté, garder un côté théorique avec des cours à la fac en début de semaine. Voilà, donc moi, je voyais ça comme quelque chose, une bonne transition vers le monde du travail.
La formation de Laura se déroule avec 3 jours à l'université et 2 jours dans l'entreprise. Est-ce que les organisateurs du master ont fait un choix judicieux ?
Je trouve que ça va plus marcher par contact et par piston et que les offres de stage qu'on trouve sur internet ou dans les endroits où on peut rechercher des offres sont souvent à temps plein et que voilà, souvent c'est soit des vrais contrats d'alternance à l'année, soit des stages à temps plein et que la formule stage en alternance, je la trouve peut-être un peu trop bancale, très très précaire. Et voilà, qui marche au final beaucoup au piston. Moi, c'est là où j'ai été déçue.
Et donc voilà, c'est là où gît le lièvre. Témoignage de Cécile et lui.
Comme tout le monde, on a tous démarché beaucoup d'entreprises qui nous ont dit « Ah, c'est génial, ah, vous êtes là que 2 jours par semaine, ça va pas être possible ». Je pense qu'on est très nombreux à avoir eu ce problème-là.
C'est super dur de trouver un stage en alternance, justement. La plupart des entreprises nous veulent à temps plein.
Une formation en alternance au niveau de la semaine, c'est donc un format assez difficile en voie. On a demandé à Cécile ce qu'elle comportait.
Alors moi je trouve que c'est pas si simple de trouver un stage en alternance parce qu'au final il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des contrats de l'alternance donc qui ne sont pas des stages à l'année qui ont beaucoup d'avantages et qui je pense sont une très très bonne formule justement d'intégration dans le monde professionnel. Par contre le stage à mi-temps c'est peu demandé, souvent ils aiment bien des stages à temps plein, c'est très peu payé du coup et au final je trouve que c'est surtout par des contacts, par des négociations un petit peu avec les entreprises qui ont réussi à trouver des stages.
Quelle est donc la solution quand on pense de mériter quelque chose de plus stimulant et gratifiant d'un stage café ? On l'a demandé à Cécile.
Ben voilà, moi je peux être là que 2 jours par semaine, mais ça veut dire qu'effectivement, nous en tant que chef de projet, puisque c'est quand même un peu à ça aussi qu'on prétend, un chef de projet qui est là 2 jours par semaine, c'est compliqué. Donc c'est aussi se remettre en cause, dire ben voilà, si je fais un stage, je ne serai pas forcément chef de projet, mais être assistant chef de projet, et du coup, qu'est-ce que je peux proposer ou pas, en fonction du temps où je serai dans l'entreprise et du temps que je peux donner moi.
Nous voyons alors que dans le choix de notre formation, il faut bien prendre en considération des facteurs comme le rythme de l'alternance et le soutien que l'établissement peut nous donner dans la recherche du stage. À vous de bien juger.
Merci Ania, tout à fait toi cette chronique. Et toi Chérifa, du coup tu t'es intéressée au statut d'entrepreneur, c'est ça ?
Tout à fait. Donc aujourd'hui je vous parle de Pépite. Vous allez me dire qu'est-ce que Pépite ? Pépite est un dispositif mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et oui, notre ministère pense à nous. Ce dispositif permet la diffusion de la culture auprès des jeunes dans l'enseignement supérieur et favorise le passage à l'acte des étudiants et des jeunes diplômés désireux d'entreprendre.
Mais du coup, quels sont les avantages de Pépite ?
Il n'y a que des avantages, ma chère Émilie.
Ah.
Alors, il y a un accès déjà à un diplôme dédié à l'entrepreneuriat. Il y a une possibilité de prolongation des avantages étudiants. On peut également bénéficier d'aménagement des études. On peut avoir accès aux espaces de travail collaboratif, pardon, mais aussi on bénéficie d'un accompagnement de tuteur, c'est-à-dire on aura un référent externe qui est en entreprise en plus d'un référent interne. Donc, et sachez qu'il n'y a pas que des conditions, il n'y a pas de conditions, pardon, à ce dispositif, mis à part avoir moins de 28 ans et avoir au moins le bac. Pour vous donner une idée concrète sur ce dispositif, je suis allée voir Eric Temfa, qui est président de l'association L'Autonome Parisien, qui gère le journal L'Étudiant Autonome.
L'intérêt, en fait, d'être dans un pépite, c'est... Le premier intérêt d'être dans un pépite, c'est d'être en relation, c'est d'être mis en relation avec des étudiants qui sont aussi créatifs et innovants que soi. Pourquoi ? Parce que dans les porteurs de projets associatifs comme entrepreneuriaux, on a des étudiants qui veulent monter des projets et qui ne savent pas où se rencontrer, en fait. Et le pépite permet cette synergie-là, permet de mettre en relation ces étudiants-là. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt en termes juridiques, on va dire, en termes de statut. Avoir un statut, ça permet de légitimer les activités extrascolaires des étudiants. Parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont soit associatifs ou soit qui développent des projets entrepreneuriaux et qui n'ont pas, on va dire, qui ont des problèmes voilà, d'absence, etc. Et avoir un statut comme celui-là permet de pallier à ça. Et le troisième intérêt du pépite, c'est lequel ? C'est le fait d'être mis en relation avec des mentors, avec des professeurs en recherche ou des professionnels d'un domaine en particulier. Donc ces mentors-là aident et guident dans le développement du projet. Et ça, c'est super intéressant pour les étudiants qui, du coup, gagnent du temps et de l'énergie qui gaspilleraient s'ils n'avaient pas des personnes qui sont déjà habilitées. Moi, on va dire que c'est assez particulier parce que j'étais dans un pépite, enfin, je me suis inscrit dans un pépite à Marne-la-Vallée, donc. Et entre-temps, j'ai dû changer d'orientation, on va dire, ce qui fait que je n'ai pas concrètement pu bénéficier de tous les avantages d'être dans un pépite, à part, évidemment, l'avantage statutaire. Donc, moi, je suis plutôt dans un processus de pré-incubation avec Ticket for Change, qui met en relation avec des mentors, avec des personnes qui suivent nos projets, etc., et qui nous aident à les développer financièrement, juridiquement, et dans le développement même du projet. Mais je suis pas l'exemple de l'étudiant qui est dans le pépite et qui peut concrètement en parler, parce que je suis dans une autre forme de pépite, on va dire, avec Ticket for Change. Étudiant autonome, c'est déjà je gère l'équipe, puisqu'on est une équipe qui se développe de plus en plus, que ce soit en Ile-de-France ou en France, on va dire. On est en train de se développer avec une équipe de rédaction, donc des personnes qui sont titulaires à l'étudiant autonome, qui est au nombre de 20 étudiants qui sont dans l'équipe de rédaction. Ensuite, on a des correspondants qui sont à l'étranger. On a Bogota, on a New York, Pittsburgh, on a Londres, Berlin, Hong Kong, Libreville au Gabon, on a Madrid aussi. Donc on a pas mal d'étudiants qui sont à l'étranger et qui nous parlent de ce qui se passe dans le monde étudiant ou en tout cas dans l'actualité locale qui peut intéresser les étudiants à l'étranger. Donc ça c'est... On a l'équipe de rédaction, les correspondants donc, et les contributeurs qui peuvent être des étudiants lambda, ça peut être n'importe qui. Si quelqu'un a besoin de parler d'un événement, d'un sujet ou de n'importe quoi, il peut nous envoyer un article directement sur le site internet, à la rubrique proposer un article, et nous ensuite avec l'équipe, avec la rédactrice en chef, on voit si l'article peut être publié ou pas. Évidemment, un échange avec la personne qui a envoyé l'article. On n'est pas du genre bon, ça c'est bien, on dit oui, ça c'est pas bon, on dit non. Il y a vraiment un échange avec les rédacteurs. Donc moi, je travaille là-dessus, sur la gestion de l'équipe. Je travaille aussi sur la recherche de financement. Donc, la recherche de financement. Je travaille aussi sur le développement de l'étudiant autonome à court terme et à long terme. Donc, développement qui implique de faire en sorte que non seulement financièrement mais aussi en termes d'échange entre les membres de l'équipe et l'extérieur on puisse être en synchro, on va dire. Et à tous les étudiants qui souhaiteraient créer leur entreprise, moi, j'ai juste un seul conseil. Dans une journée, il y a 24 heures. Donc, je pense qu'il y a assez de temps pour faire tout ce que vous souhaitez faire. Donc, n'ayez pas peur du temps et surtout lancez-vous dans un projet qui vous passionne. Parce que la passion, quand on est passionné par un projet, on ne compte pas le temps. Donc, allez-y, lancez-vous et vous allez kiffer.
Donc, si tu es étudiant ou jeune diplômé et que tu as des projets de création d'entreprise, tu peux toi aussi bénéficier du statut étudiant auto-entrepreneur. N'hésite pas à te rendre sur le site du ministère de l'Enseignement et de la Recherche pour voir le pépite le plus proche de chez toi.
Sorbonne Nouvelle Génération, vous venez d'écouter Maïka Infinity. Place tout de suite à notre rubrique culture et c'est Mélanie qui donne le la aujourd'hui. Notre jolie réunionnaise est en effet allée s'échauffer les cordes vocales dans l'atelier de comédie musicale du service d'action culturelle.
You gave it away. I give it to someone special.
Des jeunes chantant a cappella sur les escaliers de la bibliothèque universitaire, ça vous rappelle quelque chose ? Et non, ce n'est pas Rachel, Finn ou encore Mercedes du Glee Club, mais bien l'atelier de comédie musicale de Paris 3 qui enchante ou non les oreilles des étudiants en cette période de grand froid. Une question nous interpelle, la série devenue culte a-t-elle donné à certains membres de l'atelier l'envie d'être sous les feux de la rampe ? Mehdi, membre de la comédie musicale depuis l'année dernière, nous donne son avis.
On pourrait y jouer, nous, dans Glee, si tu vois ce que je veux dire, en fait. On pourrait faire partie de cette série, ou c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être la série qui, on dirait, qui n'est pas vraiment une série, en fait. On dirait que c'est vraiment inspiré de la vie de tous les jours, et il y a vraiment des situations qui montrent que, voilà, c'est une comédie musicale, tout en même temps pas une, en fait.
La coach vocale Sharon, elle-même étudiante en philosophie à Paris 3, est à l'initiative de la création de l'atelier il y a 2 ans. Tous les grands classiques de Broadway sont repris par les jeunes, Hairspray, en passant par Mamma Mia, mais vous voulez un scoop ? Contrairement aux acteurs de Glee, il ne faut pas forcément savoir chanter pour faire partie de la troupe. Et la coach nous en dit quelques mots.
Chant, malgré ce qu'on peut en penser, c'est l'une des choses les plus faciles à apprendre des trois disciplines de la comédie musicale. En général, apprendre à quelqu'un à chanter juste, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Par contre, apprendre à quelqu'un à avoir confiance en lui et à se lâcher au moment justement de chanter, de danser ou de jouer, c'est ça qui est le plus difficile, qui est le plus important aussi. Si la personne n'est pas totalement débloquée, de toute façon, on ne peut pas envisager un champ de possibilités important ou des capacités futures.
Anne-Laure, étudiante en cinéma, vient tout juste d'intégrer la comédie musicale cette année. Chanteuse sous la douche et dans la chorale de l'église le dimanche matin, c'est en franchissant les portes de la Sorbonne Nouvelle qu'elle se jette à l'eau et décide de faire de Glee sa réalité. On l'écoute.
Moi, j'ai dû à la série, en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de danser, j'en ai marre d'être enfermée en permanence chez moi ou d'avoir des gens qui critiquent dès que je propose quelque chose de positif, comme faire des sorties, comme essayer de danser ou même quand je suis avec mes petites cousines et qui s'amusent et qu'on leur même apprendre des chansons, quoi, c'est faire du bruit, c'est pas bien, quoi. C'est un peu l'idée courante qu'il y a dans la société, c'est à partir du moment où on commence à chanter, on commence à faire du bruit, c'est mal vu, quoi. C'est comme si on devait devait tout le temps se la fermer, enfin, c'est pas très joli, mais comme si on devait tout le temps fermer sa bouche et ne jamais rien dire, ne jamais parler, enfin, être passif, silencieux. Et le truc, en fait, c'est que moi, à force, ça m'a tellement pesé que je me suis dit, bon, bah, j'en ai marre, et puis je vais apprendre à danser et à chanter.
Et si, comme Anne-Laure, vous avez besoin de révéler votre âme de chanteur et vivre une expérience fun aux côtés d'autres étudiants aussi passionnés que vous, n'hésitez pas à rejoindre l'atelier comédie musicale à la rentrée prochaine. Sinon, vous êtes conviés à les applaudir et les encourager en avril lors de leur spectacle de fin d'année.
Ouais, super, merci Mélanie. Et le deuxième volet de notre rubrique culture s'ouvre sur une question. Qui a dit que le théâtre n'était pas un sport? Et c'est Antoine qui y répond. Le seul homme de la rédaction est en effet allé déboulonner les a priori en infiltrant les coulisses des athlètes de l'impro.
Exactement, en fait, on est allé suivre les Insensiés, l'équipe de Paris 3, l'équipe d'improvisation de Paris 3 pendant un match d'impro. Et on a essayé d'en savoir un peu plus sur ce sport, sur sa pratique, ses règles. Et donc, on a écouté les témoignages des joueurs de l'équipe. Et on voit ça tout de suite.
3, 2, impro.
Je pense que tout d'abord, c'est être soi-même. Et aussi accepter des gens, se faire accepter par des gens et jouer avec des gens, ça c'est bien, rencontrer de nouvelles personnes à chaque fois, avoir des délires avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. C'est tout ce qui est écoute, construire, accepter, c'est donner, recevoir, c'est être libre de ce qu'on dit et laisser les autres être libres. Manger du fromage, boire du pain, ouais, beaucoup de pain, et surtout s'amuser. Avant d'y aller, on ne dit pas forcément grand-chose, hein. On est content parce qu'on va jouer avec une autre équipe. C'est une pratique théâtrale, donc c'est parti des arts du théâtre. Mais c'est aussi en fait un sport, puisque l'improvisation qui nous vient du Québec, c'est jouer dans une patinoire. Et du coup, y a vraiment, c'est comme un match en fait. Il y a 6 joueurs contre 6 joueurs avec un arbitre. Comme j'ai dit, certaines règles à respecter. Bon, on bouge quand même pas mal beaucoup sur scène. Bon, après, c'est pas comme si on faisait par exemple du foot ou de la course de fond, c'est pas non plus aussi épuisant, mais ouais, c'est comme une sorte de sport, mais un art théâtral.
Mathieu Joanneau, c'est un super professeur.
Un match d'impro, ça se passe comme ça. Vous avez deux types d'impro, les improvisations comparées et les improvisations mixtes. Comparées, les deux équipes s'affrontent à tour de rôle sur un même thème, mixtes, elles s'affrontent ensemble sur le même thème. Ensuite, on donne une catégorie, c'est-à-dire une contrainte. Ça peut être, par exemple, jouer à la manière d'un film muet. Ensuite, on donne le temps. Alors, ce soir, ce sont que des impros de 2 minutes. Donc, il y a un arbitre qui va siffler des fautes. Parfois, vous avez des longueurs de jeu, des choses, des pénalités qui sont sifflées et qui donnent un malus à l'équipe qui a commis la pénalité, la faute. D'accord ? Au bout de 3 fautes, l'équipe donne un point à l'équipe adverse. D'accord ? Et vous, à la fin de chaque improvisation, vous votez pour l'équipe que vous avez préférée. Très bien, à vos votes.
Je gagne de la confiance en moi, si ce n'est à la place de la perte, je la gagne en fait. Je trouve que c'est bien parce que ça développe ton imagination et c'est bien de pouvoir s'oublier aussi.
Est-ce que tu considères l'impro comme un sport?
Oui, tu mouilles le maillot mon gars. Ah oui, ça devient un sport mental en fait.
On s'amuse bien.
L'improvisation, c'est une manière de s'exprimer, de partager son corps, ses idées, ses esprits, sans passer...
Surtout son corps.
Surtout son corps, mais aussi ses idées, sans passer par quelque chose de trop formel. Et donc, c'est beaucoup plus libre, je trouve, et plus épanouissant. Et il y a moins de responsabilité derrière, parce qu'une fois que tu crées quelque chose de merde, bah, tu passes à autre chose, quoi. Je parle de sport culturel, parce qu'il y a les matchs d'impro, qui est un truc qui a été créé au Canada, au Québec, à Montréal, en 77, un truc comme ça. Donc c'est une espèce de moquerie sur la base du hockey, on est dans avec des tenues de hockey, de hockeyeurs, sur une fausse patinoire, et il y a des règles strictes, il y a des points, tout ça, même si c'est le public qui décide, c'est quand même assez strict, et il y a un gagnant, un perdant, des arbitres, et des règles à suivre.
Alors ça m'a apporté une confiance en moi, alors j'avais déjà un peu confiance en moi, mais ça m'a aussi appris à ne pas contrôler, et je contrôle tout d'habitude. Et là, j'ai appris à laisser mon cerveau s'éteindre et mon corps se libérer et faire ce qui me passe par la tête et sans me dire est-ce que je vais être ridicule ou pas. Et ça sert beaucoup dans la vie. Éléphant violet qui vole sur des nuages.
Gagner, c'est important pour vous?
Alors oui, très, mais pas pour tout le monde. C'est vrai que certaines équipes sont plus là pour le public et le match d'impro, c'est qu'une manière comme une autre de partager avec le public. Et nous, autant c'est très important de partager avec le public, autant il y a des règles, il y a un but, il y a un enjeu. Et gagner, c'est toujours mieux. Quand on a le point, il est pour nous. Hein.
Moi, par exemple, faut pas le dire devant mon équipe, mais je m'en fous. Mais ils sont tous à fond, donc je fais semblant.
Moi, personnellement, on m'a toujours appris qu'on joue avec une équipe et pas contre une équipe.
Merci Antoine. Et pour rassasier votre soif de culture, Émilie vous a préparé un petit agenda spectacle-danse proposé par notre cher service culturel de Paris 3.
Oui, effectivement Jordi, tant que tombe la neige, même si c'est de la neige fondue, laissez-moi rêver, et que le froid nous mord le visage et les mains pour ceux qui, comme moi, ne portent jamais de gants, profitons-en pour nous ensoleiller l'esprit en nous réfugiant dans la chaleur douillette des salles de spectacle. Je vous en ai fait concocter une petite sélection non exhaustive et très subjective, je l'avoue, des spectacles qui nous aideront, vous et moi, à passer ces derniers mois d'hiver au chaud, bien calés dans un fauteuil. Premier coup de cœur qui risque de ravir ceux qui, comme moi, s'intéressent à l'hybridation des arts, l'autre au théâtre du Vieux Colombier. Les comédiens de la troupe de la Comédie Française, mis en scène par Françoise Gillard, font en effet ici flirter leur discipline, le théâtre, avec la danse, en explorant les limites de leur corps et leur rapport à l'altérité. En résulte un ballet atypique et sensible, immergé dans un décor d'images vidéo. Donc l'autre, c'est du 2 au 22 février au théâtre du Vieux Colombier. Autre spectacle à ne pas manquer, véritable tranche de bonheur, La fin du monde est pour dimanche, écrit et joué par François Morel et mis en scène par Benjamin Guillard. En solo sur scène, l'ancien acteur des Deschiens révèle ici sa sensibilité et sa poésie, sans jamais se départir de sa malice et de son sens de l'humour. Il incarne une galerie de personnages, tour à tour drôles et touchants, qui nous invitent, chacun à leur manière, à être dans le présent et à profiter de l'instant. Belle philosophie pour finir l'hiver. Donc La fin du monde est pour dimanche jusqu'au 28 février au Théâtre du Rond-Point. Continuons sur les énergies positives et pour réchauffer nos corps, rien de tel que le caliente, c'est évident. Et notre petit espagnol est parti, oui, c'est dommage. Du 5 au 22 mars se tiendra en effet au Théâtre National de Chaillot la deuxième biennale d'art flamenco en collaboration avec la Biennale de Séville. Les grandes figures du genre telles Rocío Molina, je le dis avec l'accent, hein, ou Rafael Carrasco, accompagnés du ballet flamenco d'Andalucía, partageront l'affiche avec des talents émergents comme Patricia et Eduardo Guerrero. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, c'est l'occasion de les découvrir et de découvrir également cette discipline et les nouvelles orientations qu'elle s'autorise aujourd'hui. Donc la Biennale d'art flamenco au Théâtre National de Chaillot du 5 au 22 mars. Enfin, pour finir en beauté, je vous propose de venir découvrir les talents Made in Paris-Sorbonne lors du festival Artefac au Théâtre de l'Opprimé du 24 au 29 mars. Pendant une semaine, les 6 compagnies parrainées par le service d'action culturelle de la Sorbonne Nouvelle monteront sur les planches pour nous présenter chaque soir à tour de rôle leurs créations. Donc Artefac, c'est au Théâtre de l'Opprimé du 24 au 29 mars. Voilà, connaissant les tarifs imbattables négociés par le service d'action culturelle, vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas y aller y faire un tour, si ce n'est, je vous l'accorde, la queue interminable certains jours devant la billetterie.
Eh ben, de quoi bien s'occuper. Merci Émilie.
Je t'en prie.
Il est désormais l'heure de se quitter. Vous n'aurez malheureusement plus la chance de nous retrouver la semaine prochaine. Vous étiez les témoins privilégiés d'une émission éphémère qui, on l'espère, vous a plu. En tout cas, si vous désirez nous entendre encore et toujours, vous ou faire partager l'émission, vous pourrez trouver le podcast sur le site de Radio Campus. Le temps pour moi, bah, de vous remercier tous.
Et merci.
Merci
Jordi.
À tous d'avoir été là. Merci à la régie.
Clara, merci à la régie.
Et à bientôt sur Radio Campus Paris.